Espace 2.
Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous rejoignons Jean-Sébastien Bach à Gruyère. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Dans ce château de Gruyère, vous nous ouvrez aujourd'hui votre caisse à outils.
C'est à peu près ça, oui. Quel est le travail du luthier et quels sont les bruits que cela fait? Eh bien, on va faire une petite revue quelques instants avec les participants à cet atelier de lutherie. Et on commence là avec une gouge pour creuser le manche de la viole qui va être affinée. Le stagiaire luthier ici, c'est Serge Menou.
Là, avec ces outils, c'est qu'il faut mettre beaucoup de force pour qu'il traverse le bois, mais il y a le risque que l'outil parte, donc il faut... Ouais. Retenir la force avec la main gauche.
Et puis on rappelle que cette semaine, nous construisons un dessus de viol.
Exactement.
Sous les conseils de David van Loire.
I think you're better with your hammer. You must be bold.
Qui recommande ici d'y aller franchement avec un marteau, un petit marteau de bois tourné en forme de cloche qui frappe sur le manche de la gouge.
Comme ça.
Et là, on se rapproche d'un racloir, tout petit aussi, spécialement conçu par David Van Edwards pour affiner la surface.
It has a microscopic hook.
La petite lame de cet instrument ressemble à un gros ongle en métal, donc un fil un peu déformé, un crochet, recourbé très finement, ça ne se voit pas à l'œil nu, pour que l'acier soit plus dur, à la fois très aiguisé et plus durable.
D'accord.
Un peu d'eau dedans.
Et ici, on prépare la colle.
Oui, qu'on fait chauffer, on ne sait plus la dire, hein, la peau de vache.
Exactement. Et on est en Gruyère, mais l'odeur n'est pas aussi bonne que la fondue à laquelle elle ressemble peut-être. On est dans une sorte de petit caclon.
Oui, moitié-moitié au vacherin, chacun son goût.
Exactement. Mmh. Un rabot maintenant, un tout petit rabot qui passe sur le bord des éclisses, la tranche donc, de l'instrument. Puis encore une lime cylindrique pour limer l'intérieur du chevalet. Les limes circulaires, c'est utile pour faire des trous comme ça?
Alors ça, c'est un outil un peu dévié à la base.
Ah non, parce que c'est du papier qui est...
Qui se fixe sur une machine qui est derrière. Et c'est une ponceuse rotative qui est très pratique.
La ponceuse, la voilà. On passe donc à des outils électriques. Philippe Motterio et David Van Edwards ne sont pas puristes. Ici, donc, pour lisser le bord de la touche.
Voilà. Les vis courtes sont de votre côté?
Ah oui.
Merci.
Oui. Authentique
de la visseuse du baroque.
Oui. Jean-Sébastien Bach.
Là.
Il a connu.
Il a écrit de la musique pour cet instrument. Et enfin, il faut accéder à nouveau par une porte au local où se trouve le tour à bois électrique aussi.
Vous dérangez une nuit, je viens voir écouter le bruit que vous faites de ce côté-ci.
C'est le tournage des chevilles. Ah.
Yes, yes, good. Yes. Well, I'll show you the system I use for doing the. Yes.
Le tour à bois, David Van Edwards, c'est utilisé en lutherie seulement pour les chevilles?
Yes, the lathe.
For the pigs.
Lathes were quite early. They were in existence in the Middle Ages.
Oui, les tours sont tout à fait anciens. Ils existaient au Moyen Âge, mais actionnés au pied très souvent. Ce sont de très anciens outils, vraiment. Mais il semble que clairement les chevilles originales étaient coupées et travaillées à la main. Avec une râpe, etc. C'est possible.
Cut and finished by hand with a rasp and so on. So,
ça, c'est une influence de la lutherie des instruments avant, peut-être. Est-ce que c'était les mêmes luthiers qui fabriquaient des flûtes, par exemple?
Ah, possibly, yes. I don't know. We know nothing about the peg makers. Absolutely nothing.
Nous ne savons rien des facteurs de cheville. Absolument rien. Si c'était les luthiers eux-mêmes ou un apprenti, ou s'ils les faisaient faire ailleurs, parce qu'aujourd'hui on les achète, c'est-à-dire pas moi, mais les gens les achètent chez des fabricants spécialisés qui utilisent les tours à copie et des méthodes industrielles. Peut-être que c'était la même chose à la Renaissance en Italie. Il peut y avoir eu des fabricants spécialisés parce qu'ils faisaient des centaines de luttes et ils travaillaient en gros d'une manière semi-industrielle. Nous le savons, ils produisaient littéralement des centaines d'instruments.
Et ils sont presque tous faits en bois de buis.
Oui, c'est un bois dur, très souvent du prunier, qui était utilisé pour les chevilles, et le buis est parfois l'ivoire. L'ébène n'est pas très bon pour les chevilles, et donc même les chevilles noires sont faites très souvent d'un autre bois, peint en noir.
Mais l'ébène n'est pas bien, mais c'est pourtant les violons actuels, les violoncelles actuelles, c'est presque toujours de l'ébène.
Mais je sais, mais ils n'ont que de toutes petites chevilles grassouillettes, qui n'ont pas le même problème que les luths et les viols, dont les chevilles sont plus fines. Et puis la moitié des violons du monde utilisent ces vis pour l'accordage, donc ils n'utilisent pas correctement les chevilles. Mais le vrai problème avec l'ébène, c'est qu'il est à la fois dur, et il se modifie avec le temps qu'il fait, et les chevilles souvent deviennent glissantes, ou bien elles collent. Les luthes spécialement, comme je suis spécialiste des luthes, je me réfère à eux. Les luthes, avec leur quantité de chevilles fines, sont vraiment à la pointe de la technologie des chevilles. Et l'ébène n'est pas le meilleur bois pour elles. Si vous faites des chevilles en ébène, les musiciens se plaindront.
L'ébène est plutôt utilisée pour les touches, pour les luthes, alors?
Yes, that's right.
Oui, c'est ça. Oui, c'était cher, certainement, mais on l'utilisait pour les touches.
Pour la viole, ce serait quel bois que vous utilisez?
On économise en n'utilisant qu'une surface d'ébène sur du sycomore ou de l'érable. C'est ce que nous allons faire ici. Seulement 1 mm d'épaisseur pour l'ébène, courbé et collé sur la surface.
Vous-même, vous avez construit des instruments de la famille des violons aussi?
Non, pas du tout. Not at all.
Par goût, par pratique?
Par pratique, par goût. Yes, really, I
Oui, vraiment, j'étais d'abord intéressé par la musique de luth et ensuite par la musique pour viol. J'adore vraiment ça. Le violon, c'est un autre monde. Quand j'ai commencé, le monde du violon était vraiment professionnel et totalement dominé par les distributeurs. Les grands marchands de violons qui maintenaient les prix élevés et les faisaient monter, c'était une branche de marché de l'art et des antiquités. Et c'est un moment où j'étais, et je suis toujours un peu contre ça, je n'aime pas beaucoup cette approche des choses, et donc je ne voulais vraiment pas en faire partie. Et j'étais content que le monde de la musique ancienne n'en faisait pas partie, ne faisait pas partie de ce marché, très cher, avec des cotations très élevées et beaucoup de secrets aussi. Les luthiers de violon, en particulier dans les 50 dernières années, ont été très secrets sur tout ce qu'ils faisaient, qui restait privé. Et je n'aime pas cela non plus. C'était un tout autre monde.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas en train de rattraper avec ces prix des marchés de l'art qui augmentent. Est-ce que les grands maîtres de la viole, Barack Norman ou Colichon, au XVIIe, ne deviennent pas un peu des Stradivarius ?
Oui, c'est vrai, mais il y en a moins. Et ils coûtent effectivement très cher, mais il n'y a pas tout à fait la même mystique qu'il y a avec un Strad, un Amati, etc., où les marchands contrôlent tout, ce qui n'est pas vraiment bien. Il y a moins de viols, si bien qu'ils n'ont pas pu intervenir de la même manière, alors qu'il reste passablement de violons et de violoncelles, et donc on peut effectivement fonctionner en marché fermé.
Whereas there are quite a few violin and cello surviving, and you can operate that closed shop quite effectively.
Et quand vous fabriquez des instruments de la famille des viols, David Van Edwards, vous avez des liens très proches avec des musées, avec des instruments qui existent
ensemble. Yes, that's right. It's important for makers of historical
instruments. Oui, exactement. C'est important pour les fabricants d'instruments historiques de garder les contacts. Par exemple, Joël Dugo à Paris, Klaus Matthias à Nuremberg. Mais j'ai parcouru toute l'Europe pour mesurer des instruments. Et quand on fait ça, ils vous laissent plus facilement regarder leurs précieux instruments. Car d'autres ont dit que vous êtes digne de confiance, que vous n'allez pas les casser, que vous savez ce que vous faites. Oui, c'était un vrai plaisir de faire le tour des musées.
And that you know what you're doing. So yes, it's been a great pleasure actually going around the museums.
Et on voit des luthiers qui se détachent des autres en étant des véritables artistes de leur genre. Il y a des grands noms de la facture de viol, par exemple, qui sont bien au-dessus de la moyenne.
Yes, it may be just an accident of survival, whether we think they're the great, but they're.
Oui, ça pourrait simplement être un accident qu'ils aient survécu. Le fait qu'on pense qu'ils sont magnifiques, mais il y a des références contemporaines des luthiers reconnus. Il y a des références dans Thomas Mace, par exemple, sur les Rose, Jace et autres fabricants de viols, citant qu'ils étaient célèbres. Donc, ils étaient effectivement célèbres à l'époque. Maintenant, ça continue. Dès que quelqu'un dit qu'ils sont célèbres, les musées les collectionnent et ainsi de suite. Mais un des instruments avec lesquels on compare cette viole est d'un Hoskins, dont je ne sais rien du tout. Un Anglais travaillant à Londres, pas célèbre dans ce sens-là, mais une partie d'un instrument a survécu et est maintenant aux USA.
An instrument has survived, or part of an instrument, it's in America now.
Et le statut social d'un fabricant, d'un luthier de viol au XVIIe siècle anglais, David Van Edwards, c'était, bon, évidemment, le fournisseur du roi, comme l'était Henry Jay, c'était évidemment assez haut, mais c'était un artisan, un bon artisan qui vivait assez facilement.
Yes, probably not very high.
Oui, probablement pas si élevé que ça. Ça n'arrivait pas souvent. Et même si le roi commandait un instrument, je ne pense pas qu'il aurait rencontré le luthier. Mais il aurait envoyé son musicien négocier avec lui.
His musician would have been sent to negotiate with the maker. And so the musician was somebody that the king would meet.
Le musicien était quelqu'un qui aurait rencontré le roi et discuté avec lui. Il y a un joli éventail appartenant à Henriette Marie dans sa chambre à coucher. Avec probablement Devisé, le jeune Devisé jouant le théorbe, assis dans sa chambre, sans uniforme, mais avec son épée, bien habillé, assis de façon informelle sur sa chaise, entouré des chiens de la reine.
Well-dressed, but sitting at his ease on a chair with the queen's dogs all around him.
Elle aurait dit si elle voulait trouver une viole ou quelque chose comme ça, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Allez me trouver ce qui se fait de mieux. Mais elle-même n'aurait jamais rencontré de luthier. Et je pense que les luthiers restaient relativement en bas de l'échelle sociale. Seuls les musiciens étaient conscients de leur valeur. Pour les autres, ils n'étaient qu'un objet.
Et c'était des solitaires, les luthiers du XVIIe siècle, ou bien c'était des gens qui travaillaient dans des grands ateliers avec de nombreux employés?
We don't really know. We know that the Italian makers were making in large.
On ne sait pas vraiment. Il y avait surtout des Allemands, mais on sait que les Italiens fabriquaient en très grande quantité. Strad travaillait tout seul avec ses fils. Lui était plutôt un solitaire. Il correspondait plus à l'image qu'on a, un peu magique, de l'alchimiste solitaire travaillant dans son atelier. Mais les autres luthiers à Venise travaillaient plus comme des fabricants de sweatshirts aujourd'hui au Moyen-Orient, employant des apprentis en grand nombre, fabriquant des nombres incroyables d'instruments pour l'exportation, et donc ils les produisaient par milliers. À la mort de Lax Mahler, lors de l'inventaire, on a répertorié 3000 instruments dans son atelier, entiers ou en pièces, donc c'était vraiment une petite usine.
Et à Londres, on connaît des choses.
I think it was much more close to the violin to the Strad model. We know Rose was working and we know some of his details so that he was in debt for things, so he was on his own.
À Londres, je pense que c'était beaucoup plus proche du Strad. On sait que Rose travaillait, on connaît des détails, qu'il avait des dettes. Il était seul avec peut-être un ou deux apprentis. C'était beaucoup plus proche du luthier solitaire, beaucoup moins industrialisé, moins rentable financièrement. Certains de ces luthiers italiens étaient des propriétaires de terrain. Ils étaient riches. Ils étaient maîtres d'une petite usine, tandis que Rove et Jay travaillaient plus ou moins seuls. Mais on n'en est pas sûr.
Parce qu'ils pouvaient fabriquer d'autres choses que des instruments de musique, finalement. Est-ce que c'était des artisans qui étaient à qui on pouvait demander des meubles ou d'autres travaux?
Oui, je ne crois pas qu'on ait des informations. Je ne sais pas si c'était le cas pour Jay et Rove, mais d'autres ont dû avoir le double rôle de fabricant de meubles.
Other instrument makers certainly were asked to make furniture and that sort of thing.
Et vous-même, David Edwards, alors, puisque de vous, vous pouvez nous raconter quand même des choses qu'on sait. Vous êtes un travailleur solitaire. Vous avez plusieurs apprentis avec vous.
Yes. No. I just work on my own. I run two evening classes and I've had.
Non, je travaille tout seul. Je donne deux cours du soir et j'ai eu deux ou trois personnes qui sont venues à mon atelier pour apprendre individuellement au cours des ans, mais je n'ai jamais pris d'apprenti. J'ai plutôt essayé de vivre selon l'image un peu romantique que l'on a des luthiers. C'est un peu artificiel, bien sûr, mais intéressant.
Et c'est intéressant aussi de faire des stages comme ici avec 6 ou 7 personnes très.
Yes, it's somewhat exhausting, but it's very interesting to see.
C'est plutôt épuisant, mais très intéressant. Et j'apprends en essayant d'expliquer aux autres ce que je pense. Les autres font aussi des suggestions et j'apprends aussi. J'ai toujours eu l'impression d'apprendre de mes étudiants. C'est important de garder l'esprit ouvert. Il n'y a jamais une seule façon parfaite de faire les choses. Extrait d'une sonate de Bach, donnée par Emmanuel Gigg, basse de viol. C'était vendredi 24 août, dans le cadre de cet atelier de musique ancienne Jean-Sébastien Bach, 10e du nom donc, à Gruyère. Emmanuel Gigg,
que vous avez rencontré, David Mestri.
Oui, et puis si David Van Edwards nous disait qu'on apprend en enseignant, on sait aussi que les luthiers et les musiciens ont souvent des échanges très fructueux. Alors Emmanuel Guigue est venu visiter cet atelier où on construit un dessus de viol toute cette semaine gruérienne. Et alors je l'accompagne sur la pente assez raide qui monte au château.
Alors on vous suit, David Mestri. Vous êtes notre guide cette semaine pour Musique en mémoire.
Emmanuel Guigue, vous êtes jeune et donc d'une génération qui commençait la viole de gamme, peut-être sans passer par le violoncelle ?
Ah non, c'est encore la génération après la mienne. D'accord. Non, moi j'ai commencé par le violon, je ne savais pas que la viole existait. Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard lors d'un stage de musique, toute musique confondue, parce qu'on faisait aussi l'instrumentarium orf et du chant choral. Mmh. Et il y avait quelques violes qui étaient là dans un coin et qu'on m'a conseillé d'essayer. Mmh. Conseil utile.
C'était du côté de Lyon ?
C'était à Paris.
Parisienne.
Ouais.
Vous enseignez à Lyon ?
Je suis lyonnaise d'origine et je continue d'enseigner à Villeurbanne, qui est vraiment une commune qui touche Lyon. Effectivement, j'ai gardé mes attaches au Rhône.
Et donc maintenant, vous êtes gambiste, violiste. Est-ce que vous jouez de toutes les tailles de viol ?
En général, quand on est de la famille, on peut jouer toutes les tailles d'instruments.
C'est surtout la basse de viol qui est demandée. Les petites violes sont plutôt réservées aux consorts ou à des formations moins souvent jouées.
Oui, on peut faire des fantaisies et puis mélanger un dessus de viol avec un violon ou avec une flûte pour des choses de musique de chambre. Mais effectivement, l'emploi principal des petites tailles de viol, c'est le consort. Oui. Donc en famille, justement.
Et vous le faites en famille avec une famille d'amis musiciens ?
Oui, tout à fait. Pas assez souvent à mon gré, mais...
C'est un ensemble constitué tout de même ?
On peut dire que oui.
Alors quel est son nom ?
Il n'a pas de nom.
Le consort de
viol. On pourrait l'appeler les Pléiades, puisqu'il travaille en collaboration avec un ensemble belge sur Bruxelles. Mais voilà.
Et ces sonates pour viol de gamme de Bach que vous avez enregistrées il y a 5 ans maintenant, est-ce qu'elles... Bruno Procopio m'a dit qu'elle n'était pas si souvent demandée par les organisateurs de concerts, qu'il y a beaucoup aussi de la nouveauté dans la musique ancienne. Est-ce que vous avez l'occasion de les pratiquer régulièrement ? Est-ce que vous avez beaucoup modifié votre façon de jouer, peut-être depuis 5 ans ?
Ça a évolué, oui, c'est clair, effectivement. Bon, en 5 ans, je ne dis pas, mais oui, ça serait neuf si on devait les réenregistrer, c'est certain.
Mmh. Et ce soir, ça va être neuf alors, pour ce concert.
En fait, c'est toujours un peu neuf. Hein. c'est peut-être pour ça qu'on fait ce métier-là.
On va jusqu'en haut ?
Bah oui, allons-y.
Très bien. Juste pour apercevoir, ils étaient en train de coller la table quand je les ai laissés il y a une demi-heure, donc l'instrument est pratiquement terminé. Donc il y a cette histoire, il faut que vous me la racontiez, Emmanuel Guigue, de cette viole que vous commandez à un luthier de luth.
Oui, il y a des aventures comme ça dans la vie, tout à fait insolites, mais en fait, j'ai fait plusieurs très belles rencontres en suivant comme ça... un coup de cœur ou un instinct et en voyant un luth de Philippe Otterio, j'ai eu une sorte de coup de foudre. J'étais prête à acheter ce luth, sachant qu'il y avait très peu d'espoir que j'apprenne à jouer du luth au niveau où ça le demanderait. Mais du coup, j'ai eu cette idée un petit peu folle de lui demander s'il n'avait pas envie d'explorer d'autres horizons et je pense qu'il était prêt à se laisser faire.
C'est vrai que le principe de cet atelier ici qu'il a créé il y a 10 ans maintenant, c'est de faire des instruments de toutes les familles un peu.
Oui.
Donc vous n'avez pas d'autres instruments de petites violes ? Vous avez...
Si.
Vous avez toute la famille, toute taille ?
Oui, ça prend un peu de place, effectivement. Oui. Il me manque le violonnet, en fait, mais bon.
La contrebasse pour une autre...
Oui, c'est ça.
Pour une autre vie. Et puis vous avez enregistré sur un instrument historique, et ce soir vous allez aussi jouer un instrument ancien, donc qui n'est pas une copie. Est-ce que ça fait une grande différence pour vous ?
Oui. Oui, en fait, c'est vrai que cet enregistrement Bach a été le point de départ d'une quête qui a été la mienne de trouver mon instrument historique, enfin celui qui pourrait m'accompagner sans que j'aie à l'emprunter à cet ami violiste. En l'occurrence, il s'agissait de Jonathan Dunford, qui m'avait prêté sa viole tout à fait élégamment et très gentiment.
Madame Salomon.
Oui. Et là, c'est Edward, Monsieur Edward, ce soir.
Un luthier, Edward Lewis anglais.
Oui, disons qu'une attribution à un luthier anglais du XVIIe siècle.
Et qu'est-ce qui vous plaît plus ? C'est souvent des instruments qui jouent mieux, qui sonnent mieux ?
C'est des instruments qui... Je sais pas, peut-être que je suis en plein rêve, mais je trouve que c'est un partenaire, un vrai partenaire qui propose des choses et qui m'emmène explorer même des gestes que je n'aurais pas explorés en si peu de temps. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve que cette viole est un partenaire à part entière. Pas animé d'un souffle.
Et vous connaissez son histoire, par exemple? Vous savez qui, entre les mains de qui elle a passé?
Je manque cruellement d'indices.
C'est souvent mystérieux, ces instruments de musée.
Oui, je sais qu'elle a été retrouvée en Californie et qu'elle n'était pas en bon état, puisque pas jouable du tout. Et donc, c'est un luthier de New York qui l'a remonté, qui s'appelle Money Cole, qui a fait un joli travail de restauration. Ce qui fait que quand j'en ai fait l'acquisition, il n'y avait pas de restauration à faire, c'était... C'était fantastique. Je pouvais m'asseoir et jouer l'instrument.
Puis Emmanuel Guigues, vous avez écrit que la viole prêtée par Jonathan Danforth pour l'enregistrement de Bach, oui, elle vous a justement incité à faire cet enregistrement, à jouer ces Bach sur disque.
Oui, oui. Bah oui, c'est... Il y a un moment où on ose, on se dit, ah ben... En fait, oui, je crois que j'ai un truc à dire. Oui, parce que s'attaquer à Bach... Bon.
Il y en a beaucoup qui ont passé avant vous.
Oh oui, mais puis de toute façon, c'est un tel monument musical que on a tous envie, enfin, on apprend tous en s'y confrontant. Et ça, je dirais jour et nuit et pendant plein d'années. C'est pour ça que la version qu'on va produire ce soir, bah, c'est une version au moment de maintenant, mais ça va continuer d'évoluer, bien sûr.
Avec cette acoustique très généreuse de l'église de Gruyère.
Oui, généreuse, c'est généreux.
Il y aura les gens sur les sièges, oui, ça va, oui, un peu... Oui. Calmé, mais... Alors, on entre là, sous le portail. Vous connaissez déjà ce château? C'est un des très beaux châteaux médiévaux, oui, conservé vraiment sans aucun accident au travers de huit siècles.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que là, j'ai regardé la toiture depuis en bas. C'était impressionnant.
Oui. On va passer peut-être par la cuisine pour entrer dans la salle des gardes. La salle des gardes qui est transformée toutes les années entre cette période en un atelier de lutherie. C'est assez génial. Voilà. C'est pas des instruments de torture, mais c'est des superbes tournebroches qui sont là sous cet immense âtre.
Oui, des expos sur la torture.
Oui. Je les ai vus tout à l'heure forcer les éclisses de la viole pour la rendre, pour qu'elle ne subisse pas trop l'humidité. La tête est probablement, d'après le luthier David Van Antwerp, une réplique de Charles Ier, roi d'Angleterre. Elle est en ce moment sous papier pour éviter d'être... Alors voilà, le collage est en train d'être fait, je crois. Je vous laisse approcher.
But that feels right now, and it's certainly burnishing at this end nicely, and not too much at that end. So I think that's fine. Good. So.
Emmanuel Guigues, David Van Antwerp.
Bonjour. Excusez-moi.
De la colle sur les doigts.
Yes. I'm afraid I really only speak English.
Okay.
Yes.
That's okay for me.
Oh, good.
That's great.
Yes. Oh, you must have a look at the
yeah, and head.
The pièce de résistance is this.
Magnifique. That's great.
Ah, nice. Yes. This we think is possibly Charles I.
Nous pensons que c'est peut-être Charles Ier, parce qu'on sait que Joy a fait une famille de viols pour Charles d'Angleterre. Sur les viols anglaises et françaises, les têtes sont souvent des hommes, mais on m'a fait remarquer que la plupart des viols de Tilquet ont des têtes de femmes. Mais j'ai l'habitude, moi, de voir des hommes. Et la vôtre est une base de viol.
But I'm used to them mostly being men. And yours is a bass viol?
Yeah.
Yes.
Yeah.
Yeah.
Very nice.
Did he play himself viol, Charles I? Certainly.
I don't know. But one would assume so. Yes. Yes.
Je ne sais pas si Charles Ier jouait de la viole, mais on peut le supposer, oui. Il était considéré comme quelqu'un de proche des arts.
Do you know?
I think every people from this
had to play. Yes,
have the education.
Yes, I mean it's known that Queen Elizabeth played the lute, and so.
Oui, les gens de son éducation devaient savoir jouer. On sait que la reine Elizabeth jouait du luth, et donc il semble que oui. Mais bien sûr, les rois peuvent faire selon leur bon plaisir. Ils peuvent avoir quelqu'un pour jouer pour eux, les meilleurs.
Yes, the best. That's the sample of what's going on the side of the... Oh, I found...
Ça, c'est juste un échantillon, vous avez
voilà,
regardé
ce matin. Voilà, non, non, c'est un essai qu'il a fait chez lui, en fait. Et là, il nous manque un marteau, mais un maillet.
Ah, parce que les petits tours, les petits ronds qui forment le...
Voilà, de c'est la, avec une emporte-pièce ou quelque chose comme ça.
Ou un petit œillet, non c'est...
Je sais pas, c'est...
Un nail, un clou. Ah.
Clou mm-hmm. Un clou, d'accord.
Oui, mm. Avec un couteau. Oui,
bon. Un marteau. Bon.
Marteau. You can't see it because I've forgotten to bring it. We're going to have to make one.
Fabriquer le clou.
Oui.
C'est
avec un clou.
Un clou qui a, qui a une tête concave.
Oui, concave, oui.
C'est, pour faire ces petits œillets
oui.
arrondis qui forment oui. le fond de la décoration.
Oui. I love this kind of work with little...
It's in a way very simple. It's just a nail with a punch, but it's yes, but it needs to be done with skill, and it has been here. It's very nice. So there were six of us, and the difficulty.
La difficulté ici est de trouver assez de place autour de l'instrument pour faire les choses, spécialement maintenant qu'on l'assemble. Vous jouez ce soir donc?
Are you playing tonight? Or... Yes. Good. I look forward to it.
Vous avez le l'original.
Yes. It turned up about 10 years or so ago in Leipzig.
Elle a été retrouvée il y a environ 10 ans à Leipzig. Elle était inconnue jusque-là. C'était une grande surprise de trouver cette petite viole de Jay. Elle est même plus petite que celle que nous faisons. Nous l'avons agrandie.
68.
Quelle est la longueur de votre basse de viole? 68 cm. Celle-ci fait 35 cm. Elle est donc destinée à jouer avec une basse de 70 cm.
Yes, so it matches very nicely. But there is a Christophe Coin has a really big J.
Mais Christophe Coin a une J vraiment grande, donc il a vraiment fabriqué toutes les tailles, de la plus petite à la toute grande, la Great Double Bass.
And who made your
It's attributed to Edward Lewis.
Oh, right, yes, I've seen drawings of a violin of his, yes. Is it in the Netherlands? Is it in Poland, the original?
No, it is yours.
It's
original. In fact, there's no label. Yeah, label. What is quite sure is that it's from the 17th century and yes. it's English instrument.
Yes.
The rest, in fact...
Yes, so it has the bent fronts made out of several pieces. I'll have a look. Yes, yes. It may be difficult to tell because if the joints are really good, you can't see.
Yeah. It was, well, there was a big work of a restoration. Monico did that in New York. Because
right, yes.
I think that it was a whole secret when,
oh, really?
When he
yes,
got
yes,
the instrument.
Yes.
And also the, I don't know, Les Verts. Had a good part on some points.
Worms. Oh, yes, yes, yes. So they've eaten
well,
a lot, yes.
There's
yes.
only the remembering of
yes.
their passage.
Right. Yes, yes, yes.
But it's
yes.
interesting.
We had a tool here which I had made for once for this.
Nous avions un outil ici que j'avais fabriqué une fois pour plier un fond d'instrument et le couper au milieu. Et nous avons trouvé un trou de verre. Il y avait une pièce de plastique insérée et le verre a mangé jusqu'au plastique et est mort. Il a mangé le plastique. Il s'est transformé en coléoptère et nous avons trouvé la bestiole dans le trou. Nous l'avons photographié.
Yes.
Yes.
Finally.
Yes. Be careful with that squeaky noise. Sounds as if it might be binding on this end more. But check the amount of shininess. Just see.
J'étais étudiante en biologie avec deux instruments, donc la viole de gambe et l'alto. Et en fait, il s'est trouvé un moment où je ne pouvais plus tout faire et je commençais à faire une sorte de petite déprime. Parce que je courais sans arrêt d'un endroit à l'autre. Les études marchaient très bien sans trop fournir de travail, mais la musique demandait aussi son compte de, bah, de temps, voilà, de temps à consacrer à ça. Et donc, j'ai décidé de faire ce pari qui était le pari le plus fou pour moi, qui était celui de la musique, dont je sentais qu'il m'emmènerait le plus loin, parce qu'il y avait beaucoup de choses à explorer encore pour moi. Mais j'avais aucune idée de ce que ça signifie d'être musicien professionnel. Il y avait des mélomanes dans mon entourage, mais personne dont c'était le métier. J'avais vraiment pas beaucoup d'idées, ni même du répertoire de la viole, du milieu baroque, etc. C'était une idée folle, mais très enrichissante.
Et l'alto, vous avez continué aussi en parallèle ?
Non, j'aurais aimé faire de l'alto baroque, mais ça s'est pas trouvé. Et puis, voilà, il a déserté. J'ai trouvé pas un remplaçant, mais un autre acolyte en la personne du camanché. Le camanché, qui est donc le violon caucasien, que j'ai découvert en 2000, tout à fait par hasard, lors d'un voyage en Iran. Je jouais pour des concerts à l'ambassade de France, et on a été à un concert où le camanché était joué. La tenue d'archer est la même que celle de la viole de gambe, comme sur toute la route de la soie, en fait, allant de l'Occident vers l'Orient. Et donc je suis tombée amoureuse du timbre de cet instrument, donc j'en ai ramené un qu'un luthier m'a construit après avoir été à notre concert. C'est déjà une jolie histoire. Il a dormi 3 ans, et puis après j'ai trouvé un professeur en la personne d'un Arménien, et j'en joue toujours. Et puis c'est difficile de faire deux instruments, puis là c'est vraiment un instrument de culture totalement différente, avec tradition orale, mais c'est un peu ce que je cherchais comme ouverture. Et il y a quand même plein de ponts avec notre musique. Voilà.
Et Agère, vous la connaissez ?
Agère, oui, c'est une amie d'amis. Et puis, bon, il se trouve qu'on ne joue pas ensemble parce que le viol et violoncelle, c'est un petit peu...
C'est des frères ennemis depuis Hubert Leblanc.
Non, pas, enfin, moi je ne le vois pas comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de littérature après.
Oui, oui, bien sûr.
Mais là, je suis contente de la croiser ici.
Ouais. Un violoncelle à 5 cordes comme celui qu'elle va jouer aujourd'hui, vous l'avez pratiqué, ça ? Vous avez essayé ?
Non. Non, j'ai déjà essayé un violoncelle. Je me suis toujours demandé si, au moment où j'ai choisi mon premier instrument qui était le violon, si on m'avait présenté un violoncelle, si savoir ce que j'aurais choisi. Mais finalement, bon, avec le camanché, je suis restée dans les aigus. La question reste ouverte et il n'aura jamais de réponse.
Et puis, il y a ce mystère de la viola pomposa chez Bach. Vous en savez quelque chose, Emmanuel Guille ?
Alors, je sais qu'il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites par les frères Koeken, mais non.
Vous n'avez jamais été tenté de jouer de votre viol à la façon sur l'épaule ? Mais le camanché, il se joue vertical ou sur l'épaule ?
Il se joue en position verticale, il a une petite pique, et puis donc on joue soit assis en tailleur, soit assis sur un siège, avec la pique posée sur la jambe. Mais la viola pomposa... c'est un réel monument qu'il faut avoir au bout du bras.
Oui, le violoncello d'Aspane.
Oui, oui, oui. Je dois dire que je ne me suis pas lancée dans ce défi-là.
Parce que le terme paraît dans des partitions de... Dans la sixième suite, c'est marqué violoncello. Oui, ou bien c'est une masse. C'est quand même sei solo à violoncello solo. Mais dans la dernière page, c'est un manuscrit.
Certaines cantates aussi. Oui. Moi, je trouve ça passionnant de faire ces essais-là, effectivement. Parce que ça amène d'autres timbres et d'autres dynamiques, et donc une autre lecture possible de la musique, une autre transparence aussi. Et c'est bien, c'est tout ce qui est nouveau qui permet d'entrevoir la chose sous de nouveaux angles, et passionnante, à vrai dire. Donc,
Et vous, moins de 6 cordes, ça vous convient pas ?
Camanché, on a 4, mais c'est vrai que bon, c'est un minimum, effectivement.
Parce que vous avez aussi joué une transcription de... Enfin, vous avez joué cette sixième suite, non, le prélude sur votre disque Bach.
J'ai travaillé la cinquième suite intégralement, en fait.
Voilà. Les violistes, maintenant, ils se revengent et ils reprennent le répertoire du violoncelle, voilà. Alors que les violoncellistes leur ont piqué les sonates pour viol de gambe.
Vous parliez du nombre de cordes, et j'ai essayé récemment un baryton. Et alors ça, c'est très excitant. Ça.
C'est l'instrument de Haydn, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Et cette musique de Haydn, j'ai cité des trios avec un alto, un baryton et un violoncelle. L'occasion de jouer avec du violoncelle, justement. Et c'est passionnant, c'est merveilleux. C'est vraiment une littérature qui est fantastique au niveau du contrepoint. C'est merveilleux.
Et il y a combien de cordes sur un baryton, d'ailleurs?
Je ne sais même plus combien il y a de cordes sympathiques.
Ah, c'est
bien. Il y a beaucoup. 11, je crois. Et elles sont numérotées, en fait. Elles sont notées au-dessus de la partition, qui est tout à fait normal. Et quand il faut pincer une des cordes sympathiques avec le pouce derrière le manche, il y a son numéro qui est noté. Ça produit un nuage d'harmonique, c'est passionnant.
Et la viole d'amour, alors c'est un peu comme cette famille-là?
Oui, tout à fait, oui. C'est les instruments sympathiques.
Voilà, alors vous allez répéter avec votre instrument antipathique maintenant. Quand même du Haydn ou de Lewis, voilà. Probablement.
Le cadre est sublime.
On ferme la porte en sortant, David Mestri. Quelle porte? La porte de l'église de Gruyère, où répète encore Bruno Procopio, complice d'Emmanuel Guigue pour ce concert qui a eu lieu à la fin août dernier de Jean-Sébastien Bach, les sonates pour viol de gambe et clavecin, et aussi une découverte que je vous propose d'écouter en dernière partie d'émission. C'est cette sonate signée d'un contemporain de Bach, un peu plus jeune, né en 1699, qui s'appelle Johann Friedrich Rouet. Donc Bach d'abord au concert et au disque, et pour finir, Johann Friedrich Rouet.
Par Emmanuel Guigue donc, et Bruno Procopio. si vous entendez quelques sons de cette musique de Johann Friedrich Rouet, c'est grâce à nos deux collègues d'Espace de Blaise Favre et Gérard Halla. Et si nous passons une semaine ensemble en compagnie de Bach à Gruyère, c'est grâce à vous. David Mestri avait donc assisté à ce 10e atelier de musique ancienne. On remercie ensemble Christophe Esteva pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production. Proposition de Jean de Crider.